Le journal. Bonjour Marc Fauvel.
Bonjour à tous. À la une ce matin, coup de pression sur les opérateurs télécoms. À partir d'aujourd'hui, les consommateurs peuvent connaître précisément la couverture et la qualité du réseau téléphonique dans n'importe quel point de France. Une carte interactive que France Inter a pu tester en avant-première. Et si vous revendiez votre vieille voiture pour en acheter une d'occasion, le gouvernement dévoile ce matin la toute nouvelle prime à la casse. Les voitures d'occasion seront désormais concernées par le système. 300 000 passagers priés d'aller voir ailleurs. La décision de Ryanair d'annuler 2000 vols passe mal auprès des clients. Certains, vous l'entendrez, n'ont été informés qu'au tout dernier moment. À 8h20, votre invité Nicolas, Brexit, crise des migrants, montée des populismes, comment va l'Europe? Comment va-t-elle s'en sortir également? Vous en parlez avec l'ancien président du Conseil italien.
J'ai nommé Enrico Letta, il publie « Faire l'Europe dans un monde de brutes ». C'est chez Fayard, à paraître le 20 septembre. Vos questions sur l'Europe et sa relance, 01 45 24 7000.
Dans l'actualité également, le coup d'envoi de l'Assemblée Générale des Nations Unies ce soir à New York. Qui en veut aux diplomates américains à Cuba? Il pourrait être victime d'une attaque acoustique. France-Belgique, ce sera la finale de la Coupe Davis de tennis. Et puis la très mauvaise soirée télé de Donald Trump hier soir aux Emmy Awards.
France Inter.
Si vous en avez assez de compter les petites barres sur l'écran de votre portable chez vous, au travail ou en vacances, voici donc une nouveauté qui devrait vous intéresser. Pour la première fois, le gendarme des télécoms, l'ARCEP, met en ligne ce matin une carte de France interactive. Vous cliquez et en quelques secondes, vous pouvez connaître précisément le nom des opérateurs qui couvrent la zone ainsi que le niveau et la qualité du réseau de téléphonie mobile. Alors ce n'est pas la fin des zones blanches, hein, mais un sacré coup de pression mis sur les opérateurs. Laurent Kramer.
En publiant ces informations, l'autorité des télécoms met volontairement les pieds dans le plat. Jusqu'ici, les opérateurs de téléphonie mobile pouvaient claironner et communiquer sur une couverture du territoire exemplaire, parfois jusqu'à 99%, mais les cartes disponibles ne donnaient en réalité jusqu'ici aucune précision sur la qualité ni même le niveau de réception constaté par les utilisateurs. Cette nouvelle carte interactive permet désormais de zoomer à 50 mètres près sur l'ensemble du territoire et donc de comparer à chaque adresse les différents niveaux de prestations offerts par chaque opérateur de téléphonie mobile. À cette adresse, un signal existe, visible sur la carte, mais est-il suffisant pour téléphoner ou envoyer un simple SMS à l'intérieur d'un bâtiment? Non, précise désormais clairement la carte de l'ARCEP, qui entend créer un choc de transparence auprès des opérateurs pour les obliger à augmenter leurs investissements dans la qualité du réseau.
Laurent Kramer, et si vous avez du réseau, je vous donne l'adresse pour trouver cette carte disponible depuis quelques minutes, monreseaumobile.fr ou, si vous ne l'avez pas noté, tous les détails sur franceinter.fr. Comment mettre à la casse les 3 millions de voitures les plus polluantes? Tous les gouvernements s'y sont attaqués ces dernières années à coups de primes à la casse ou d'incitations. Ce matin, c'est Nicolas Hulot qui lance la sienne dans les colonnes de Libération. Le ministre de la Transition écologique annonce que la prime à la casse sera désormais étendue aux voitures d'occasion les moins polluantes. Plus besoin d'acheter une voiture neuve pour toucher l'aide de l'État, compris entre 500 et 1000 euros. Et pour convaincre les ménages non imposables de franchir le pas, leur prime sera doublée à 2000 euros. Écoutez Flavien Neuville, il dirige l'Observatoire de l'automobile CTLM et il applaudit ce matin.
C'est une bonne nouvelle parce que jusqu'à présent, on avait testé la prime à la casse pour l'achat d'un véhicule neuf. C'est ce qui avait été fait en 2009 et 2010 et ça avait très bien marché puisqu'on avait estimé qu'on avait vendu 600 000 voitures par anticipation. Simplement, si on veut lutter efficacement contre la pollution de l'air dans nos grandes villes, il faut s'attaquer aux vieux parcs roulants et on a beaucoup de voitures qui chaque jour roulent sur nos routes et qui ont plus de 15 ans d'âge. Et ce sont ces voitures qui polluent et donc il faut essayer d'accompagner ceux qui veulent changer leur voiture mais qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un véhicule neuf. On sait très bien que ceux qui roulent dans des vieilles voitures tous les jours ne le font pas par plaisir ou avec la farouche volonté de polluer. Ils le font parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule neuf. Ils achètent souvent des véhicules d'occasion. Finalement, rajeunissant l'âge moyen du parc, qui est aujourd'hui très élevé, puisque les voitures ont à peu près en moyenne 9 ans d'âge en France, en aidant finalement ces automobilistes à avoir un véhicule plus récent, eh ben on va améliorer la qualité de l'air dans les villes, c'est très clair.
L'économiste Flavien Neuville, elles étaient quasiment gelées depuis 3 ans. Les pensions de retraite seront revalorisées cette année, plus 0,8% dans quelques jours, le 1er octobre. réserve. Cela concerne la retraite de base, car pour les régimes complémentaires, en revanche, il n'y aura pas de coup de pouce cette année encore.
8h05, ils les avaient, pardon, réservés, parfois payés, mais ils resteront au pied de la passerelle.
Des centaines de milliers de passagers de Ryanair vont devoir se trouver un autre moyen de déplacement. La compagnie low cost vient de faire le ménage dans ses vols au nom de la ponctualité et pour permettre à son personnel de régulariser ses congés. 2000 vols sont supprimés jusqu'à la fin octobre. Mauvaise surprise évidemment pour les clients, surtout Hélène Philly quand l'annulation se fait par texto et à la dernière minute.
On peut dire que le séjour est un peu gâché pour Aude. Cette étudiante de 20 ans devait rentrer de Londres aujourd'hui, après un week-end entre amis. Mais samedi, elle reçoit un SMS de Ryanair. Son vol retour est annulé et c'est bien difficile pour elle d'avoir plus d'informations.
Il disait qu'on avait une attente de 30 minutes. Finalement, on a attendu 2h30 pour finalement tomber sur quelqu'un qui parlait même pas français. Ils ont dit qu'on devait aller au guichet de l'aéroport, qui du coup est toujours à 60 km. Donc en fait, on doit refaire 100 km pour leur demander d'avoir un hôtel pour essayer de pas passer la nuit dans l'aéroport.
Aucune garantie ne lui a été donnée, mais au moins elle a trouvé un vol demain pour la ramener chez elle. Comme Aude, ils sont des centaines à avoir été mis au pied du mur ce week-end. La compagnie aérienne veut supprimer 40 à 50 vols par jour pendant 6 semaines. Laura se souviendra longtemps de son premier voyage à l'étranger, au Portugal.
Quand on vous envoie un SMS en plein milieu d'un pays étranger où vous ne connaissez même pas la langue et qu'on vous dit bon, le vol pour rentrer à la maison est annulé, c'est horrible.
Laura doit rentrer à Lorient. Elle réussit à trouver un vol de substitution pour La Rochelle et enchaîne ensuite taxi, bus, covoiturage. 12 heures de voyage en plus et 200 euros de budget. Selon la BBC, plus de 280 000 voyageurs pourraient être affectés par ces annulations de dernière minute.
Rien à voir avec Irma, heureusement, mais les Antilles n'en ont pas fini avec les ouragans. Le dernier né s'appelle Maria, c'est le 13e de l'année. Il devrait frapper la Guadeloupe à partir de ce soir. L'île est en alerte rouge. Interdiction de se déplacer. Trafic aérien suspendu, écoles et administrations fermées jusqu'à nouvel ordre. On redoute des rafales jusqu'à 200 000 km/h et des creux de 10 mètres en mer. La Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy pourraient être touchés, mais dans une moindre mesure.
Et tant pis pour les allergiques à l'anglais. Les députés de La République En Marche se retrouvent ce matin pour leur séminaire de rentrée.
On va y parler brainstorming, team building et media training en bon français dans le texte. En clair, le parti du président s'inspire directement du monde de l'entreprise et de ses méthodes managériales pour régler un problème qui lui est bien politique. Karine Bécard, les novices de juin ne sont pas devenus des pros de la politique en 3 mois.
Les 314 députés de La République En Marche ont un problème. Ils ne se connaissent pas. Ils sont pour la plupart de tout nouveaux élus. Donc premier objectif de ce séminaire, créer un esprit de groupe. Jacques Maire, ancien diplomate, député aujourd'hui des Hauts-de-Seine.
On n'a pas eu de période d'essai, vous l'avez bien remarqué. On n'a pas eu le temps de se connaître. Donc nous, par exemple, au niveau de la commission des affaires étrangères, on a fait un team building en forêt de Fontainebleau, avec d'escalade, avec tous les commissaires qu'ils souhaitaient de La République En Marche affaires étrangères. Se connaître, c'est très important. C'est encore quelque chose à construire.
Deuxième problème à régler pour ces nouveaux députés, savoir s'exprimer dans l'hémicycle et dans les médias. Bref, pendant 2 jours, ils vont être entraînés, même si Sylvain Maillard, un chef d'entreprise devenu député de Paris, minimise les dysfonctionnements de la majorité au début de l'été.
Moi, je regardais mes collègues des autres groupes communistes, France Insoumise ou LR, d'ailleurs, qui ont fait aussi énormément d'erreurs de procédure, d'organisation. Donc, parfois, on prend juste des morceaux de vie, mais on en rate beaucoup d'autres. Et je pense que dans l'ensemble, on a plutôt bien travaillé et qu'on a bien mené les débats.
Reste une dernière difficulté, apprendre à maîtriser tous les sujets, le logement, la réforme du travail ou la fiscalité. Bref, en faire des politiques capables de défendre l'exécutif.
Karine Bécard, 2 femmes grièvement blessées, 2 autres en état de choc après une attaque à l'acide hier à Marseille contre un groupe de touristes américaines. Elles attendaient leur train dans le quartier de la gare Saint-Charles lorsqu'elles ont été attaquées. L'auteur de l'agression, une femme de 41 ans, n'a pas cherché à s'enfuir. Elle aurait des antécédents psychiatriques.
France Inter 8h09, c'est le lieu des coups de gueule, des coups de menton et parfois des beaux discours.
La tribune des Nations Unies à New York s'apprête à voir défiler tout ce que la planète compte de chefs d'État pour son Assemblée Générale annuelle qui débute ce soir. On surveillera notamment la première de Donald Trump demain et le ton qu'il emploiera face à la Corée du Nord. Première aussi pour Emmanuel Macron qui vient parler écologie et guerre en Syrie, notamment à New York pour France Inter, Christian Chesneau.
À New York, Emmanuel Macron va tenter de remettre la France dans le jeu diplomatique pour trouver une solution à la crise syrienne, un dossier qui figure en haut de l'agenda onusien. Comme le chef de l'État l'a récemment dit, Paris brille par son absence dans les négociations d'Astana pilotées par les Russes, un processus visant à établir 4 zones de désescalade militaire en Syrie. Or, ce mécanisme est en train de donner des résultats, reconnaît un diplomate français. Mais pour la France, l'objectif à terme, c'est bien de mettre sur les rails une transition politique crédible à Damas. C'est pour cette raison que l'Élysée a pris l'initiative de constituer un groupe de contact comprenant les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, plus des pays voisins de la Syrie. Avec une question épineuse que va tenter de résoudre Emmanuel Macron, l'Iran doit-il faire partie de ce groupe de contact? La France y est favorable, les États-Unis y sont opposés. À peine descendu de son avion, le président français retrouvera Donald Trump dans un palace new-yorkais pour aborder ce point délicat, car le moins que l'on puisse dire, c'est que le président américain est vent debout contre Téhéran, accusé de déstabiliser le Moyen-Orient. New York, Christian Chéneau, France Inter.
Et pendant que New York accueille la planète, c'est un autre sujet qui commence à agacer sérieusement Washington. Une affaire d'attaque acoustique contre son ambassade à Cuba. Elle n'a rouvert qu'il y a 2 ans, cette ambassade, lors du réchauffement diplomatique entre les deux pays. Mais depuis, de nombreux diplomates américains se plaignent de maux de tête, de nausées, de pertes d'audition, à tel point que les États-Unis envisagent aujourd'hui de fermer leur représentation. Grégory Phillips.
Le premier cas remonte à décembre dernier. Un employé de l'ambassade américaine qui travaille dans ce bâtiment de 6 étages, situé sur le Malecón à La Havane, se plaint de migraines à répétition et de perte d'équilibre. Mais il n'est pas le seul. Au total, 21 diplomates ou des membres de leur famille connaissent à peu près les mêmes symptômes, maux de tête, nausées, perte d'audition. Plusieurs sont même rapatriés en urgence vers la Floride voisine. Officiellement, personne ne connaît l'origine du mal. Officieusement, des responsables américains pensent qu'il pourrait être lié à des appareils acoustiques peut-être placés dans les murs de l'ambassade. Interrogé hier sur CBS, le secrétaire d'État américain a dû reconnaître que la fermeture du poste était envisagée. C'est un problème très sérieux que nous sommes en train d'évaluer, a dit Tillerson. Avec tout le respect qu'on doit à ces gens qui souffrent, on a rapatrié des personnels. La situation est en cours d'examen. Au printemps, sans attendre les résultats de l'enquête, les autautorités américaines avaient expulsé 2 diplomates cubains de Washington. La Havane continue de nier toute implication, mais aujourd'hui, des sénateurs républicains demandent à Trump de fermer l'ambassade. Ce mal mystérieux qui frappe les diplomates américains, mais aussi des Canadiens, pourrait bien remettre en cause le rapprochement entre les deux pays, souhaité à l'époque par Obama et Raúl Castro. New York, Grégory Phillips, France Inter.
Il est 8h12, bientôt du nouveau pour les asthmatiques.
Et plusieurs entreprises travaillent en ce moment sur des inhalateurs connectés, reliés à un smartphone. Ils permettent aux médecins de surveiller à distance la bonne prise du médicament, mais ils pourraient être utiles également pour mieux comprendre le déclenchement des crises que touchent environ 4 millions de Français. Véronique Julia.
Un patient asthmatique a souvent 2 inhalateurs dans sa poche. Un premier en traitement de fond pour empêcher les crises et un second en cas d'urgence pour les calmer quand elles surviennent. Le boîtier connecté se fixe indifféremment sur l'un ou sur l'autre de ces inhalateurs. En cas de crise, en tout cas, il permet de savoir où était le malade et à quelle heure ça s'est produit. Un outil précieux pour mieux se connaître et mieux anticiper. Stéphane Chuc a développé ce boîtier connecté.
Parfois, les asthmatiques mettent du temps à connaître exactement quels sont les facteurs déclenchants de leur crise. On travaille avec des prestataires qui donnent les niveaux de pollution à l'endroit où la crise a eu lieu. Et puis on a aussi la pollinisation. Donc on peut imaginer que quand les crises se répètent à plusieurs endroits qui ont les mêmes caractéristiques, ça va donner des informations.
Fixé à l'inhalateur de traitement de fond, le boîtier peut indiquer aussi au médecin si son patient observe bien les indications de son ordonnance. Nicolas Roche est pneumologue.
On sait que l'observance des traitements, c'est-à-dire la prise par rapport à ce qui a été prescrit, est un très très gros problème. Au moins la moitié des patients ne prennent pas le traitement comme on le suggère. Donc ça, c'est un point très utile potentiellement pour nous de savoir exactement ce qui se passe.
À l'arrivée des crises d'asthme évitées, peut-être, elles font quand même 1 millier de morts chaque année en France. Ce boîtier pourrait être commercialisé courant 2018.
6 matchs et autant de victoires. Le PSG continue sur sa série en Ligue 1 après un succès 2-0 hier soir face à Lyon. Une finale entre voisins cette année pour la Coupe Davis de tennis. La France retrouvera la Belgique fin novembre, finale surprise. Car si la France, emmenée par Noah, a logiquement battu la Serbie, la Belgique a déjoué tous les pronostics en sortant l'Australie. Pas de quoi faire de nous les favoris, prévient déjà le numéro 1 belge, David Goffin, il l'a dit à la RTBF.
Ouais, ils ont quand même tous une grosse envie de la gagner, ça fait un moment qu'ils n'ont plus gagné, et Yannick aussi, il est là pour soulever le saladier. Ça va être une rencontre très sympa. J'ai plusieurs copains qui sont dans l'équipe de France et on se disait justement que ça pourrait être énorme de jouer la finale en France. Et voilà, finalement ça arrive et ça va être quelque chose de très sympa. Maintenant, ils ont un grand groupe, hein, il y a beaucoup de joueurs, ils ont beaucoup d'armes, alors que chez nous, nous, c'est plutôt clair, hein, souvent les sélections, et eux, ils ont vraiment beaucoup de possibilités, donc ça dépendra des quelques mois qui vont suivre.
Et les Bleus auront l'avantage de jouer à domicile pour cette finale les 24, 25 et 26 novembre.
Et enfin, c'était un peu la fête à Donald Trump cette nuit à Los Angeles.
Pour la 69e cérémonie des Emmy Awards, qui récompense le meilleur de la télé américaine, côté statuette, deux grands vainqueurs, la série La Servante écarlate, l'histoire d'une femme américaine réduite à l'esclavage, et la comédie politique VIP, l'histoire d'une femme américaine nommée vice-présidente des États-Unis. Mais la vraie star, hier soir, c'était le président, le vrai Loïc Piala.
Il en parle tous les soirs dans son populaire talk show. Le comédien Stephen Colbert n'allait donc pas se priver d'évoquer Donald Trump dans son monologue d'ouverture.
On sait tous que les Emmys comptent beaucoup pour Donald Trump. Il a été nommé plusieurs fois pour son émission de télé-réalité The Apprentice, mais il n'a jamais gagné. Parce que contrairement à l'élection présidentielle, c'est le vainqueur du vote populaire qui gagne le trophée. Mais pourquoi vous ne lui en avez jamais donné un? Avec ça, je suis sûr qu'il ne se serait jamais présenté à la présidentielle. Tout ça, c'est votre faute.
Il a même fait venir sur scène Sean Spicer. Derrière un faux pupitre, l'ancien porte-parole de la Maison-Blanche a adapté sa célèbre formule sur la foule présente lors de l'investiture du président américain.
Ces Emmys seront les plus regardés de toute l'histoire. Point barre. Que ce soit ici ou dans le monde.
Jane Fonda, l'actrice et activiste, a dénoncé les fanatiques sexistes, égocentriques et menteurs, sans citer le président américain. Et ultime pied de nez, Alec Baldwin a été récompensé pour son imitation de Trump dans l'émission Saturday Night Live.
J'imagine que je devrais dire « Enfin, le voilà votre ami ».
Los Angeles, le Gala pour France Inter.
Voilà, on éteint la télé, on rallume la radio, c'est avec vous Nicolas.
Merci mon cher Marc Fauvel.